Pourquoi pas moi ?
Pourquoi pas moi ?
Bonjour et bienvenue dans l'émission Pourquoi pas moi ? Ce podcast est initié par la Fondation Valentin AUI. Le thème de ce premier épisode porte sur les métiers du numérique. Bonjour Marc Alioundé, je sais que vous êtes handicapé visuel. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, je suis Marc Alioundé, je suis déficient visuel, donc j'ai une rétinopathie, j'ai 34 ans, je suis développeur, on va dire ce qu'on appelle un développeur back-end, je suis plutôt un consultant en informatique, donc j'ai un diplôme en master 2 en architecture logicielle, en Java essentiellement, et puis je travaille pour des grands groupes, j'interviens pour la mise en place de systèmes d'information. Donc, généralement des solutions en interne. En tant que consultant en informatique, je suis plutôt du côté de Capgemini. Et puis, à côté, j'accompagne aussi des jeunes, la plupart du temps, des personnes en situation de handicap visuel qui sont en reconversion professionnelle pour faire de l'informatique. Donc, je les accompagne en tant que mentor et si besoin, en tant aussi que formateur, donc pour tout ce qui est outils de compensation du handicap.
Il y a la question de la fracture numérique, l'inaccessibilité de beaucoup de sites qui peut de prime abord être une entrave à ces métiers du numérique et à la perception que certains valides ont du fait que les déficients visuels puissent acquérir des compétences dans ce domaine.
Du fait que je suis sensibilisé, je travaille dans ce milieu-là et la question de l'accessibilité numérique, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je demande à être formé de plus en plus dans ce domaine-là. J'interviens même dans le domaine, on va dire, pour sensibiliser, pour moi, c'est très important que ce soit déjà même pour aujourd'hui et plus encore dans le futur, c'est un sujet qui sera déterminant. Et ce sujet m'impacte à deux niveaux déjà. D'une part, en tant qu'utilisateur de tous les jours de services Internet, et d'autre part, en tant que salarié. Je suis dans l'informatique, j'utilise des outils informatique tous les jours, donc je suis tous les jours confronté à des problématiques d'accessibilité. Et l'un des plus gros problèmes auxquels j'ai été confronté et que je constate étant moi-même développeur, donc étant même une personne qui travaille dans des équipes qui produisent des interfaces en informatique, c'est que je me rends compte que mes collègues ne connaissent pas le handicap. Le handicap, c'est quelque chose de très discret au final, quelque chose de très mal connu, ce serait peut-être plus ça le terme adéquat. Et je me rends compte que oui, même avec aujourd'hui 7-8 ans d'expérience, je tombe encore sur des collègues qui, d'une part, sont étonnés de voir qu'une personne handicapée puisse travailler dans ce milieu-là, et d'autre part, sont plutôt ravis en fait, de l'expérience qu'ils peuvent avoir avec moi. J'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir eu des personnes dans mon entourage, donc dans mes équipes, qui étaient plutôt ouvertes et très sensibilisé sur ces questions-là. Et j'ai aussi le plaisir d'avoir fait en sorte que dans les équipes où je suis passé, je sensibilise les gens sur la question de l'accessibilité numérique.
Quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui aimeraient s'intéresser à ce domaine, sachant qu'on sait que malheureusement, 50% des déficients visuels sont encore au chômage, vu le manque d'inclusion en France ?
Alors, je pense que ça reste encore un domaine scientifique. Donc, il vaut mieux aimer les mathématiques, aimer la logique. Une fois qu'on est à l'aise avec ces sujets-là, je pense que le reste, c'est comme tout, quand on a un handicap, on sait que le maître mot de tout notre parcours, ça va être l'adaptation. Ben, il va falloir s'adapter. Il faut pas avoir peur, être juste conscient que c'est possible. Je pense que l'une des premières problématiques, même pour les personnes que j'ai accompagnées, c'est juste cette prise de conscience, c'est possible, on peut le faire même en étant en situation de handicap. Après, derrière, effectivement, ça va demander et de l'adaptation et du travail. Le fait de pouvoir parler de son handicap, je pense que c'est très important. C'est très important pour rassurer, parce que le handicap, j'ai peur de le dire, mais le handicap fait peur.
Exactement.
Donc c'est un fait. Et le fait juste de pouvoir rassurer les personnes que l'on a en face de soi, que ce soit au moment de l'embauche, quand on vient d'arriver dans une équipe, et même au quotidien, expliquer juste à ses collègues en fait, les difficultés qu'on peut rencontrer et mettre des mots sur ces difficultés, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Et quand on veut être à l'aise dans son poste de travail, à son boulot, c'est même quasiment indispensable.
Bonjour Laurie Chenebeau, merci de participer à ce podcast. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, sachant que je sais que vous n'êtes pas en situation de handicap visuel. Vous êtes un des seuls intervenants participants à ne pas être malvoyant ou aveugle.
Eh bien, moi, je suis ingénieur pédagogique pour l'école au Clock, qui est une école qui forme aux métiers du numérique, historiquement plutôt sur des métiers liés au développement web. Et du coup, je travaille à la conception et à la maintenance de programmes de formation, notamment autour de l'inclusion. Voilà.
Et depuis quand formez-vous des déficients visuels ?
Alors, chez O'Clock, la formation des déficients visuels, elle a commencé il y a à peu près 2 ans.
Et vous qui êtes enseignant, quels sont les freins, les entraves les plus importants que rencontrent les déficients visuels au métier du numérique ?
Alors forcément, quand on parle du numérique et des déficients visuels, bah, on pense tout de suite aux problématiques d'accessibilité.
Oui, bien sûr.
Et donc l'accessibilité, on peut la retrouver à pas mal de niveaux. Les problèmes d'accessibilité sont présents à différents niveaux. Le premier qu'on peut citer, bah, c'est celui qu'on connaît tous, c'est je suis déficient visuel, je navigue sur Internet, je vais avoir souvent des grandes difficultés. On est confronté à un web qui est quand même globalement peu accessible par rapport à ce qu'il pourrait être. Et du coup, forcément, quand on apprend ce métier-là, il faut déjà être à l'aise avec la navigation sur un navigateur, donc la navigation sur des sites web et des applis web. Ensuite, il va y avoir l'accessibilité aussi des logiciels du métier. Donc aujourd'hui, quel que soit le métier qu'on fait, on est quand même assez régulièrement en contact avec l'informatique, et du coup les logiciels sont aussi parfois peu accessibles. Donc je vais dire le premier challenge, qui la première difficulté qu'on a rencontrée dans notre enseignement qui se fait à distance, voilà. c'est cette difficulté là de trouver des alternatives accessibles à des solutions qui ne sont pas accessibles, ou alors adapter des choses non accessibles pour les rendre accessibles, ou encore plus challengeant, trouver des astuces et faire en sorte que des apprenants déficients visuels puissent utiliser l'ensemble des outils nécessaires à l'exercice du métier de développeur.
Vous qui êtes justement une personne valide, qu'est-ce que ça vous apporte comme satisfaction de travailler avec les déficients visuels, de travailler pour l'apprentissage des déficients visuels ? Parce que j'imagine, vu le domaine, que c'est différent humainement.
Humainement, c'est forcément très enrichissant de travailler, parce qu'en fait, on est sur de la formation professionnelle, donc finalement, on est plus au bout d'un moment et d'ailleurs, dès le début, on est beaucoup dans l'interaction, c'est-à-dire qu'on leur transmet un savoir, mais on apprend aussi beaucoup d'eux. On a beau être, nous, sensibilisés et formés à ce handicap, on a tout intérêt à écouter, à recevoir leur feedback et à nous adapter et à apprendre. Assez chouette en formation, c'est que justement les apprenants sont très investis et très donneurs de retour sur ce qu'ils vivent. Donc du coup, forcément, nous, ce que ça nous apporte en tant qu'équipe pédagogique, c'est qu'on monte en compétence aussi sur les sujets de l'accessibilité, parce que l'accessibilité, il y a tout un aspect théorique, c'est comme tout, il y a des choses à respecter, mais en fait, il y a rien de tel que d'être confronté à des vraies problématiques d'accessibilité à travers, par exemple, ces apprenants, pour monter en compétence sur ces questions-là. Donc ça, c'est un apport qui est énorme, quoi. Ils contribuent à l'amélioration de la qualité de leur formation, mais aussi à l'amélioration de la qualité des formations futures. Voilà.
Et vous estimez que vous avez réussi vos objectifs jusqu'à présent ?
Nous, la meilleure récompense qu'on peut avoir, c'est d'avoir un apprenant ou une apprenante qui font ce qu'on a peut appeler une sortie positive, c'est-à-dire qui trouvent un emploi qui leur convient à l'issue de la formation. Et aujourd'hui, on a plusieurs apprenants qui sont en poste dans des entreprises. Mais cette grosse valeur ajoutée, ce bagage qu'ils prennent en venant sur notre programme, qui est, je sais techniquement, comment mettre en œuvre l'accessibilité sur des sites et applications web, Et du coup, ça, c'est vraiment très riche pour aussi pour les entreprises, puisqu'elles ont à la fois une personne qui est en mesure de se mettre à la place de quelqu'un qui rencontre un problème d'accessibilité, mais en plus, cet apprenant-là, cette personne-là qui arrive en poste, est capable de résoudre les problèmes et d'auditer éventuellement le travail de ses collaborateurs.
Bonjour David Galantin, merci de participer à ce podcast. Pourriez-vous vous présenter, hein, s'il vous plaît?
Je m'appelle David, j'ai 48 ans et donc je suis non-voyant de naissance. Donc là actuellement je suis chez Winepoint, c'est une entreprise, une ESN d'informatique et je suis employé en tant que développeur axé sur l'accessibilité. Je fais du développement mais également je teste pour vérifier l'accessibilité de certains projets avec des collègues justement qui eux ont fait le développement et pour vérifier me donnent leur page web à tester avec un lecteur d'écran du coup. Je fais également de la formation, sensibilisation au handicap alors au sein de l'entreprise parce qu'il y a toujours des nouveaux collègues qui arrivent et puis c'est toujours intéressant de leur montrer comment utiliser un lecteur d'écran, comment ça marche, voilà. Et puis la formation auprès de clients de l'entreprise aussi.
Qu'est-ce qui vous a amené à ce domaine de compétences?
L'informatique, j'en faisais un peu pour moi en autodidacte, on va dire, et j'ai eu un ordinateur, mon premier ordinateur doit dater de 1989 au siècle dernier, on va dire. J'ai suivi l'évolution des ordinateurs, mais aussi des outils pour déficients visuels, plage braille et autres.
Avant de travailler dans ce domaine du numérique, quel était votre précédent poste?
J'ai fait 9 ans au Futuroscope aux yeux grands fermés, c'est un parcours dans le Loir, et j'étais guide animateur là-bas pendant 9 ans. Ce qui était intéressant, c'est qu'on croisait tout type de public, hein, de 7 à 79 ans, si on peut dire ça comme ça.
Et vous
Donc,
êtes...
fallait s'adapter aussi bien classe de lycéens que peut-être un groupe de retraités. C'était pas du tout la même ambiance du coup.
Mais ça devait être intéressant en termes de sensibilisation, grand public.
Oui, tout à fait. Et puis après, les questions des personnes à la sortie aussi étaient souvent très intéressantes.
Concernant votre univers familial, amical, si je puis dire, quand vous leur avez parlé de ce poste de travail, ça a été bien reçu ou vous avez eu des difficultés pour leur exprimer votre envie de travailler dans ce domaine?
Non, non, ça a été au contraire, ils m'ont
Ils vous ont
encouragé, parce
encouragé?
que justement, c'est souvent à moi qu'on fait appel pour les problèmes d'informatique au niveau amical ou familial. voilà.
Donc ça coulait de source en fait, hein, que ça
Voilà, tout à
devienne
fait.
votre métier. Bonjour Kevin Bustamante, merci de participer à ce podcast. Pourriez-vous vous présenter, sachant que je sais au préalable que vous êtes handicapé visuel?
Je suis donc Kevin Bustamante, je suis référent accessibilité numérique au sein de la société Acodis, qui est donc la filiale technologique de Ziadeco Group. Je suis donc non-voyant et j'ai pour mission d'intervenir auprès des équipes techniques, donc designers, développeurs, chefs de projet, pour les accompagner dans la mise en accessibilité des solutions qu'on développe pour le compte de nos clients notamment.
Pourquoi, à votre avis, les déficients visuels doivent se former au métier du numérique?
Je pense qu'aujourd'hui, il est important de se former au métier du numérique parce que tout simplement, déjà, c'est un gage d'autonomie. Avoir la possibilité de pouvoir faire, par exemple, ses courses sur un site de e-commerce, de pouvoir réaliser une démarche administrative de manière autonome, c'est permettre tout simplement de nous réaliser et de gagner en autonomie déjà dans sa vie personnelle. Et puis, c'est aussi un moyen, au travers du numérique, aussi d'être totalement aussi opérationnel sur son poste de travail, notamment. Encore faut-il que l'accessibilité numérique puisse être prise en compte sur le poste de travail. On parle beaucoup d'accessibilité des logiciels métiers. Donc c'est là tout l'enjeu, c'est créer cette compatibilité entre les intranets, les progiciels mis à disposition du collaborateur et les outils adapté qu'une personne en situation de handicap visuel, en l'occurrence une synthèse vocale ou une page braille, puisse fonctionner. En tant que personne non-voyante, je suis confronté au quotidien à cette question de l'accessibilité numérique,
Bien
que
sûr.
ce soit au travers de mon parcours que ça soit même scolaire ou professionnel, ou même dans ma vie personnelle, mais même au regard des différentes personnes auxquelles ils sont, qui sont confrontées à cette question de l'accessibilité, qui dépasse d'ailleurs même cet enjeu du handicap, parce que finalement, l'accessibilité numérique concerne vraiment tout le monde, et même les personnes qui sont peut-être éloignées aussi du numérique.
Et oui, puisque l'électronisme, je vais rappeler un chiffre, concerne 13 millions de personnes en France, personnes handicapées visuelles, personnes âgées, etc. Donc c'est vrai que la fracture numérique touche un grand nombre de personnes dans notre pays. Si vous aviez des conseils à donner à des jeunes étudiants ou des personnes en reconversion qui voudraient travailler dans le domaine du numérique, puisqu'on sait que c'est un sujet porteur vu les nouvelles technologies et que cela a révolutionné notre quotidien en termes de communication, quels seraient-ils ?
Moi, déjà, je suis convaincu qu'il est important d'avoir de la diversité et que des personnes en situation de handicap investissent ce type de secteur. Il ne faut pas se mettre de barrière. Aujourd'hui, avoir une personne en situation de handicap dans les équipes, ça permet déjà de sensibiliser les ingénieurs, sensibiliser les développeurs. Et en fait, on dépasse avoir des personnes qui sont formées au numérique et qui sont en situation de handicap. On n'est pas simplement des utilisateurs, on est des experts capables de proposer des solutions, capables d'imaginer des innovations, alors au service du handicap, mais finalement au service de tous. Et ça, c'est important de dire qu'il est important d'avoir cette diversité, parce que cette diversité, c'est de la richesse. Et les entreprises, mais pas que, ont besoin justement de cette richesse dans les équipes pour innover et pour appréhender de nouvelles solutions. Donc ça, c'est déjà important que ne pas se donner cette barrière, parce que je pense qu'on a tous un rôle à jouer, qu'on soit en situation de handicap ou non d'ailleurs, mais pour imaginer la société de demain. Et puis, sur l'aspect du numérique, il y a plein de métiers en fait. C'est des métiers, ce n'est pas l'ingénieur qui a fait Bac plus 5 et qui est blindé de diplôme, qui parle anglais couramment. Non, il n'y a pas que ça en fait. Il y a une forte mobilité dans ces métiers. On peut devenir chef de projet, on peut être product owner, on peut être testeur, on peut travailler en collaboration avec des UX/UI. Donc, il y a tout un panorama de métiers qui aujourd'hui s'offrent dans ce type de domaine et qui peuvent s'offrir à la personne en situation de handicap. Et puis, ça a aussi l'avantage d'être un métier qui est assez souple, assez flexible. Vous pouvez travailler dans une ESN, donc dans une entreprise de services numériques, donc dans une entreprise qui développe des solutions numériques pour le compte de clients, donc dans des grandes entreprises par exemple. Vous pouvez travailler dans des entreprises adaptées, donc des entreprises qui ont donc pour vocation de recruter 50% de personnes en situation de handicap, mais vous pouvez aussi travailler de manière indépendante, en freelance. Et puis, il y a aussi le télétravail, forcément. Le numérique, aujourd'hui, ça supprime les frontières, on peut dire ça, ça les efface en tout cas. Et si votre entreprise, par exemple, se situe dans une ville où typiquement, il n'y a pas de transport en commun, qui ne serait pas accessible, finalement, ce n'est pas un frein. Rien ne vous empêche d'habiter dans une ville peut-être plus accessible, plus adaptée à votre handicap et de travailler en distanciel avec l'entreprise.
Très important de rappeler le télétravail, puisque ça peut être un handicap sur un handicap. On parle encore d'accessibilité, mais qui est lié à la mobilité pour le coup. La question que je voudrais aussi vous poser, quelle est votre plus grande satisfaction dans ce domaine, dans ce milieu professionnel ?
Non, moi, le plaisir que j'ai tous les jours, c'est quand j'échange avec des ingénieurs et qu'on échange ensemble et qu'on essaye de réfléchir à des solutions. Aujourd'hui, il y a de nombreuses nouvelles technologies qui apparaissent. On parle de l'intelligence artificielle et je suis convaincu que grâce à ce type d'outils, demain, on a quand même des belles perspectives et de belles innovations à imaginer en fait ensemble. C'est stimulant en fait. Moi, je dis, j'ai tous les matins, j'ai le smile. Avoir des personnes en situation de handicap, comme je vous dis, c'est innover. Et innover, une entreprise en a besoin pour se différencier sur le marché, notamment.
Bonjour, Lorelai Termelen. Je sais que vous êtes en situation de handicap visuel. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Je m'appelle Lorelai. Je suis effectivement handicapée visuelle. J'ai un glaucome congénital qui fait que je ne vois quasiment plus. Je suis actuellement en reconversion professionnelle dans le domaine du développement web. Sachant que j'y connaissais absolument rien avant, vu que j'étais dans le domaine de la restauration.
Ah oui, donc rien à voir. Et qu'est-ce qui vous a emmené justement à cette reconversion dans le métier du numérique ?
C'est un peu par hasard. En fait, c'est ma conseillère Cap Emploi qui m'a parlé de cette formation qui est faite exprès pour les personnes déficientes visuelles. Et quand elle m'a proposé, je me suis dit, bah, j'avais pas pensé, mais pourquoi pas.
Et vous aviez déjà une sensibilité à l'informatique, au numérique. Est-ce que clairement, vous étiez déjà un peu geek, hein, comme beaucoup de nos invités d'aujourd'hui ?
Eh ben, pas vraiment. Moi, j'utilisais mon ordinateur pour aller sur YouTube ou pour regarder des films. Enfin, voilà.
Faire des démarches classiques.
J'avais pas vraiment de... Voilà, c'est ça, exactement. Mais j'avais pas d'appétence particulière pour l'informatique à la base. Non.
Et vous n'avez pas eu d'appréhension quand on vous a proposé cette formation ? En vous disant, en tant que malvoyante, est-ce que ça va être pour moi ? Est-ce que ce sera accessible, adapté ?
Alors, j'ai eu beaucoup de questions. Parce que, en plus, pour la formation, je demandais à ce qu'on sache utiliser un PC, sachant que moi, je n'avais pas utilisé de PC depuis 3 ans à peu près, je pense. Mais en fait, j'ai été très bien accompagnée. J'ai eu droit à une pré-formation pour apprendre à utiliser NVDA. Et bah, grâce à ça, j'ai pu commencer à utiliser mon PC. Et la formation est vraiment faite pour que ce soit accessible. Du coup, ça va.
Et du coup, est-ce que ça vous a aidé un peu à surmonter votre handicap ? Car contrairement aux autres participants, votre diagnostic est assez récent et on sait que l'on doit surmonter beaucoup d'obstacles et beaucoup de phases, surtout au début. Donc en termes d'appréhension, est-ce que dans votre vie quotidienne liée au handicap, le numérique, cette formation vous a aidé ?
Oui, ça m'aide à reprendre un peu confiance en moi. Ça fait du bien de voir qu'on est capable de faire des choses. Et puis même, du coup, je sais pas, un truc banal, mais j'avais pas réessayé de faire la cuisine depuis que j'avais perdu la vue. Ça m'a donné envie d'essayer. Enfin, je me sens capable de faire plus de choses, du coup, grâce à ça.
Et c'est une formation que vous faites à distance, c'est ça ?
Oui, c'est à distance. Bah, ce qui est tant mieux pour moi, parce que j'ai encore du mal à me déplacer toute seule. Donc ça m'arrange bien comme ça, oui.
Est-ce que vous pourriez décrire aux auditeurs quelle est l'interaction entre vous ?
Alors, notre formateur, là, celui qu'on a eu en début d'année, donc on l'a jusque demain, du coup, Pierrick, lui, il est formé à tout ce qui est accessibilité en termes de web. Du coup, il comprend très bien notre situation, même si lui-même n'est pas en situation de handicap, mais il utilise NVDA lui-même pour tester, etc. Et du coup, il est vraiment sensibilisé à la question et... Bah, ça évite des moments de malaise.
Et ça vous apporte de l'autonomie et de l'indépendance, j'imagine aussi, hein, en dehors de la formation à proprement parler.
Disons que ça donne des perspectives, quoi, parce que je ne savais pas du tout vers quoi j'allais aller. Je savais même plus ce qui m'intéressait, où je me disais, bah, de toute façon, je n'en serais pas capable. Et bah, là, je me rends compte que je suis capable, donc ça fait du bien.
Bien sûr que vous êtes capable, et donc ça vous permet de vous projeter.
Exactement, ouais, ça me permet d'élaborer des projets. Là, on doit chercher un stage, je me dis, je vais plutôt chercher dans telle ou telle branche, et plus tard, j'aimerais plutôt faire ça que ça, et je m'autorise déjà à faire des choix et à ne pas dire oui à la première proposition qui viendra.
Si vous aviez un conseil à donner à une personne qui est dans la même situation que vous, c'est-à-dire malvoyante ou aveugle depuis peu de temps, qui aimerait se reconvertir dans les métiers du numérique, quel serait-il ?
Alors, je lui dirais, parce que moi, ça a pris du temps, mais trouver les bonnes personnes à qui s'adresser, en fait. Parce que moi, j'étais un peu perdue quand j'ai perdu la vue. On ne m'a pas vraiment donné d'orientation. Donc, voir avec Cap Emploi, déjà. Moi, ma conseillère m'a beaucoup aidée par rapport à ça. C'est elle qui m'a parlé de la formation. Et pour le développement web, l'école O'Clock qui propose justement cette formation spécialement pour les personnes déficientes visuelles, parce que je pense qu'une formation classique, ça doit être un peu compliqué si on ne maîtrise pas déjà un peu l'outil numérique, je pense.
Malgré le handicap, c'est possible.
Oui, c'est possible. Bah, je m'en rends compte maintenant, ouais. Si vous vous sentez, enfin, si vous êtes déficient visuel depuis pas longtemps et que vous vous sentez pas bien, c'est normal et ça prendra le temps que ça prendra. Faut pas vous mettre la pression à vous dire, faut absolument que je trouve quelque chose. Chacun son rythme et c'est en faisant des bonnes rencontres qu'on trouve un chemin, j'ai envie de dire.
Merci aux invités pour leur témoignage et leur sincérité. Pour conclure, le regard sur les malvoyants et les aveugles doit changer. N'oublions surtout pas que le handicap est avant tout du lien humain. À bientôt dans Pourquoi pas moi.
Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin Ahuy en partenariat avec l'école O'Clock et présenté par Caroline Pilastre.
Pourquoi pas moi ?
Pourquoi pas moi ?